Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 33. Tout est dans tout. Vendredi 26 janvier 2024, Alexandre Pratt de la presse qui est avec nous. Salut Alexandre.
Salut Pierre.
C'est toi qui me fais penser au 33 d'ailleurs, le dernier balado.
En effet.
Simon-Olivier Larange, salut Simon-Olivier.
Salut.
Et nous avons pour le 98.5 FM Stéphane White. Salut Stéphane.
Salut les gars.
Bon, je disais 33 parce que évidemment c'était la journée Patrick Roy hier.
Ah oui?
Ou ouais. Mais vous attendez parler un peu.
Ils ont gardé ça en tout cas.
Low profile. Ah,
ouais. Il y en a pas fait assez.
Non, c'est assez discret. Donc
franchement,
oui, on va parler de Patrick Roy des Islanders, de cette victoire, je dirais in extremis du Canadien face aux Islanders de New York. On va se parler des brios de Sean Monahan, de Cole Caulfield, de l'avantage numérique. Je vais vous demander de piger dans votre boule votre boule de cristal également. Aller faire un petit tour là-dedans parce que le dernier match approche pour le Canadien avant la pause, cette fameuse pause, le bye week du côté du Canadien de Montréal. D'ailleurs, nous aussi, on fera relâche durant cette pause-là. On va revenir le 5 février, lundi le 5 février. On sera de retour en très grande forme.
Tout bronzé, j'imagine.
Écoute, peut-être pour toi.
Non.
Tu pourrais être le sud, peut-être.
Non.
Et on va se parler des Oilers, on se parler des Kings. Bref, vous avez compris de quoi on va parler. On va parler de hockey durant ce balado sortisant. Bon. Je commence avec notre ami Alexandre Pratt. Le roi était à Montréal hier. Patrick, de son nom.
Je pensais que tu parlais de moi. Le roi est à Montréal, puis il me pointe.
J'ai fait un jeu de mots. Je dis au gars, l'avez-vous pogné? Patrick, le roi, R.O.I. Hein? C'est assez coquin. Alexandre.
C'était le premier à la faire.
Honnêtement, c'était...
C'était
bien fait. C'était correct.
Honnêtement, c'est une des plus belles journées / soirées de hockey à Montréal depuis un bout. Il y a eu des beaux matchs au début de l'année, là, quand même, Rangers, Boston, puis tout ça. Mais hier, pour la première fois en 2 ans, le Canadien jouait quand même avec un petit peu de pression. Ça, je m'explique, là, depuis 2 ans, il n'y a aucune obligation de victoire, de classement, il n'y a rien. Mais là, hier, Roy est en ville. Puis, tu sais, oublions pas que Roy, il y a 2 ans seulement, était intéressé à travailler pour le Canadien.
Mm-hmm.
On lui a préféré Gorton, on lui a préféré Hughes, on lui a préféré Saint-Louis. En gros, c'est comme, t'es une légende, c'est super, mais t'sais, on va prendre un bras de distance avec toi. C'est sûr qu'il a été déçu de ça. Et là, il revient, puis je pense que s'il y avait eu une belle varlope hier de 5-0, 7-1, 9-3, tout ce qui est dans le champ des possibles après ce qui est arrivé dans la semaine, ça aurait pas très bien fait paraître la haute direction du Canadien, surtout qu'on s'en va, comme tu le dis, en semaine de congé. De quoi auraient parlé les gens pendant 10 jours de l'erreur du Canadien de ne pas avoir embauché Roy? Alors, il y avait de la pression hier, il y avait de l'intensité. Puis hier, le Canadien, il voulait la gagner. Il est sorti très fort, quand même 3-0. Il n'y a pas eu beaucoup d'avance. On en parlait hier. Il n'y a pas eu beaucoup d'avance de 3-0 là, récemment.
Il y avait eu un 4-0 contre les Islanders plutôt dans la saison. Les Islanders, ils avaient chauffé en fin de match. Puis il y avait le 3-0 contre les Rangers qui est devenu un 4-3 en tir de barrage.
Ça
n'arrive pas tous les jours.
Donc, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, ça en est pour une soirée où c'est festive là, pour le Canadien. Ça va bien aller jusqu'à ce que, les punitions rentrent.
On va en parler, Brendan Gallagher, avec un scientifique coup de coude au visage d'un joueur des Islanders. Simon-Olivier, toi, ta soirée, Patrick Roy, comment tu l'as trouvé?
Moi, je vais être franc, je suis pas fâché que ce soit passé.
OK.
Moi, Patrick Roy, juste pour le contexte, moi, ce n'est pas vraiment mon héros d'enfance, dans le sens que quand j'ai commencé à suivre le hockey, Patrick Roy se faisait échanger dans ces journées-là. Fait que moi, le Patrick Roy du Canadien, je suis tout à fait conscient de ses exploits, mais ça fait pas vibrer grand-chose en moi. Et le Patrick Roy entraîneur ne fait pas vibrer grand-chose en moi non plus, dans la mesure où dans la Ligue nationale, il a coaché 3 ans. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas un bon coach, mais moi, de faire 6 jours sur un coach qui a 3 ans d'expérience dans la Ligue nationale, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas une belle carrière junior, mais je commençais à avoir hâte aussi qu'on passe à d'autres choses. Et là, le point de presse avant le match où, grosso modo, Patrick Roy décrivait Lou Lamoriello comme, mon Dieu, c'est comme si on a un ou une collègue que je n'aimerais pas, mais qui s'est demandé si Lou Lamoriello n'avait pas sauvé ses enfants de la noyade, puis on ne le savait pas, ça avait comme pas de bon sens, la dithyrambe. Fait que, c'est ça. C'est, comme a dit Alexandre, ça a fait un bon match, ça a fait un bon show, puis je suis prêt à ce qu'on passe à d'autres choses.
OK. Stéphane, toi, comment t'as apprécié l'expérience?
Ben, c'était le fun. Écoute, c'est quand même... moi, je l'ai vu jouer, là. Patrick, c'est un gars de mon âge, et puis je l'ai vu jouer. Il a gagné 2 Coupes Stanley que je me souviens très bien, les 2 dernières en passant. Et puis, écoute, c'est quand même quelque chose pour le Canadien de Montréal. C'est quand même le meilleur gardien de but de l'histoire du Canadien de Montréal. Puis il y en a eu des mots juste de bon dans leurs histoires. C'était quand même quelque chose que le gars, il revienne dans la Ligue nationale. Il parle de Lou. Écoute, il parle de Lou avec raison parce que c'est le seul qui a osé lui faire confiance depuis 8 ans. C'est le seul qui croit à lui. Fait que je peux comprendre de dire, hey, Lou, c'est ici, puis Lou, c'est ça, puis Lou, j'adore travailler avec, puis je le respecte, puis tout ça. Ça, je peux comprendre ça. Donc, c'était le fun hier. Et puis, de là, dire, quitte, c'est certain que les Canadiens ont gagné, tout le monde est sur le party. La plus belle soirée au Centre Bell que j'entends dire. Écoute, je pense qu'on en met pas mal, mais il reste que quand même, on a donné 47 buts, 47 lancés au but contre 28. Là, t'sais, je veux dire, c'est pas comme si le Canadien a donné une varlope aux Islanders.
Non, clairement. Et le Canadien a pris les devants 3-0 dans ce match-là. Et un moment donné, mine de rien, Brendan Gallagher est venu pimenter cette soirée-là en donnant un sympathique coup de coude en plein visage de Pelech, le joueur des Islanders de New York. D'ailleurs, au moment où on enregistre le balado, la sanction de Gallagher n'est pas tombée. Donc, si jamais ça tombe durant le balado, on va vous le dire. Mais clairement, là, c'est une rencontre par téléphone. Donc, on parle de 5 matchs et moins. Messieurs, on va se lancer à tour de rôle. Vous pensez combien de matchs, Gallagher?
Ben, combien j'y aurais donné ou combien il va recevoir?
Combien il va recevoir? Après, tu me diras combien tu y aurais donné, toi.
Je pense qu'il va recevoir 4 ou 5.
OK.
J'y en aurais donné entre 6 et 8.
6 et 8.
Parce que, tu sais, ce qui est un peu compliqué, je trouve, du système de la Ligue nationale, il y a des années où ils sont sévères, d'autres années sont moins sévères. Mais là, depuis un an et demi, donc, ce qui couvre en gros les deux dans la saison, il y a eu une suspension de plus 5 matchs. C'est David Perron là, pour son coup.
Le double échec.
Oui, c'est ça, au visage, là, qui était quand même extrêmement violent aussi. Je pensais que Gallagher était pour avoir, grosso modo, la même suspension que Perron. Là, on dit non, il y a une audience téléphonique. J'aurais quand même, honnêtement, de la misère à ce que ça soit comme un ou deux matchs, considérant le geste posé qui était prémédité dans le sens où pas quand il est sorti... c'est du banc, puis il fait comme, OK, je vais attendre 2 minutes, je vais aller frapper. Puis là, c'est pas ça, là. C'est pas comme une bataille, mettons, préarrangée. Mais je veux dire, il est allé le chercher, là. Je veux dire, il a levé le coude, puis pas juste un peu, là. C'était clairement une agression. C'est exactement le genre de geste qu'on souhaite qu'il soit puni. Puis, tu sais, je reviens toujours à ça, mais dans n'importe quel autre sport, un geste comme ça, là, t'es suspendu pour plus que 5% d'une saison. Tu sais, fais ça dans la NFL, là, ils vont te suspendre, je sais pas, 2, 3, 4 matchs, mais ça représente au total peut-être, tu sais, 15-20% d'une saison. Au baseball, tu peux pas faire ça. Au basket, tu peux pas faire ça. Au soccer, tu peux pas faire ça. Tu sais, j'ai de la misère à voir la NFL donner juste un match, honnêtement.
Donc, 4 ou 5 pour toi, Alexandre. Ouais. Parfait. Simon Olivier, combien de matchs?
2.
Tu penses? 2, 3.
Je m'intéressais ce matin, tu sais, chaque fois qu'il y a une suspension, quasi systématiquement, on parle de l'historique du joueur. Mm-hmm. Je vais faire un détour en rappelant une suspension qu'a reçue Alex Pietrangelo pendant les dernières séries éliminatoires. Il y a eu un match pour un coup de bâton d'une violence incroyable sur un adversaire ça a été nommé qu'il n'y avait pas d'historique. J'ai revu cette saison, il y a eu seulement 2 suspensions jusqu'ici pour des coups à la tête. Connor Clifton des Sabres de Buffalo qui a eu 2 matchs et Charlie McAvoy a eu 4 matchs. McAvoy, son historique est cité, il avait déjà reçu une suspension et une amende. Et sur la séquence, McAvoy vraiment quitte sa position pour aller frapper un joueur qui n'est plus la rondelle depuis un moment, qui est Oliver Ekman-Larsson. Et c'est vraiment... On ne commencera pas à comparer coup à la tête contre coup à la tête, là, mais si j'analyse cette situation-là, je vois un geste beaucoup plus prémédité que celui de Gallagher. Alors, comme a dit Alexandre, je pense pas quand il part du banc, c'est ça son intention. La séquence se déroule quand même rapidement. Moi aussi, j'aurais souhaité une suspension plus longue que ça parce que c'est des coups très dangereux qui nuisent au hockey, qui sont, tu sais, en plus que Pelec a un historique de commotion. Mais comme je vous dis, étant donné ce qui a été donné à McAvoy, étant donné que Gallagher n'a aucun historique de suspension, je serais très, très, très surpris que ça dépasse 3 matchs.
OK. Stéphane, de ton côté?
Ben oui, je serais pas aussi catégorique en disant que c'est un coup sauvage qui a pas de bon sens, qui est violent ou possible. Puis, tu sais, au moment donné, c'est rendu casse-terre à toutes les fois qu'il y a un hit moindrement solide. Là, c'est rendu là, que... c'est juste on s'en va pas en Cour suprême puis okay, que Steph, c'est 3 ans de prison.
On joue au hockey
et puis ça mérite une suspension, mais c'est tout le temps tout ce que j'entends depuis quelques années, c'est les commentaires, c'est tellement exagéré, mais ça paraît bien, ça. Ça paraît bien au niveau du public de dire, hey, ça n'a pas de bon sens. Si, si, c'est ça. Écoute, c'est un coup, oui, qui devrait être suspendu 2-3 matchs maximum. Surtout que le gars, c'est pas un gars salaud. C'est pas un joueur salaud. Ça va arriver dans le feu de l'action, dans l'émotion. Si t'as pas le temps de penser, là, si t'as joué un peu, puis Jérémy t'a joué, là, des fois, là, ça vient vite en maudit, ça glace, là. Et puis, c'est pas un gars qui a un historique de salaud. Et puis moi, c'est 2-3 matchs, puis à un moment donné, il n'y a pas une grosse histoire à faire avec ça.
OK. Là, est-ce que j'ai le droit de réplique, Stéphane?
Vas-y.
OK, parfait. Stéphane, t'as joué au hockey, j'ai joué au hockey, tous ceux qui nous écoutent ont joué au hockey. Il a sorti le coude, Stéphane. Ouais. Tu sais que quand quelqu'un sort le coude, c'est parce qu'il veut pas avoir le contact physique corps à corps. Parce que en plein centre de la glace, ça fait mal, honnêtement, d'aller ramasser quelqu'un. Il a juste sorti le coude, juste parce qu'il est un peu cheapette, juste sortir le coude. Écoute, ça, c'est pire que tout, là. Au hockey, même quand tes joueurs font ça, tu fais, voyons donc, c'était fait là, juste sortir le coude. Tu l'as vu, le coude, Stéphane?
C'est pire qu'un coup de bâton sur la tête, puis c'est pire qu'un crash check d'en face, puis c'est pire que... Ah ouais?
C'est pas ça que je te dis. Je t'ai dit, est-ce que t'as vu...
Tu viens de dire que c'est pire que tout,
écoute,
GR. Tu viens de dire que c'est pire que tout.
Est-ce que t'as vu le coup de sortir, Stéphane?
Oui, un coup de sorti.
Bon, ça, c'est cheap,
et
ça.
Et puis... Ah oui, j'ai dit que ça méritait une suspension aussi. Mais je dis pas, tu sais, de là... Je dis pas de là, là, dire, là, là, hey, c'est sauvage, c'est ici... Attends, un moment donné, là, arrêtez, ça arrive dans le feu de l'action des affaires de même, puis ça va arriver encore demain, puis il y a 10 ans, ça arrivait 3 fois par match, puis on n'en parlait même pas, il n'y avait même pas de suspension.
Non, mais dans ce temps-là, écoute, il n'y avait pas Internet partout, on le voyait pas, mais là, ça tournait partout. Ouais. Sincèrement, je pense, ça va être entre 3 et 4. Toi, t'as dit quoi, 2-3, moi, je pense 3-4. Ouais. Ça devrait être ça, mais je suis pas convaincu qu'il est ben fier de sa shot, là. Sincèrement,
t'as
redonné l'avantage aux Islanders, ils sont revenus dans le match en plus.
Ah... Là. Je viens de dire que je suis convaincu qu'il le regrette. C'est le premier. Je connais assez Gally pour savoir qu'il doit le regretter, puis pas à peu près. Puis je connais assez Gally. Je l'ai vu assez jouer dans ma vie pour savoir que c'est pas un joueur salaud. Et puis, sur le coup de ça va vite. Boum, réaction. Il lève le coude par réaction. Mais si t'as pas levé le coude pour blesser, parce que c'est pas son style. Il n'a jamais été de même. Alors, C'est sûr qu'il la regrette.
Ouais, Saint-Louis a dit hier après le match. On lui a demandé, est-ce que tu as parlé? Il dit, non, j'ai pas besoin de
pas besoin de parler.
Il sait, le voyons.
Pas besoin de parler. Il n'y avait pas besoin de le coach d'aller voir et dire, hey, t'as levé le coude. Et s'il y en a un qui le sait, c'est bien lui.
Bon, mais Stéphane, écoute, fait plaisir de te confirmer officiellement comme apôtre de la violence, c'est fait, c'est toi qui es le violent. Ça en prend un dans la gang, c'est toi le violent.
Mais bon. Tu sais, c'est le timing aussi de ça.
C'est pas bon, là.
En fait, tout.
Je sais,
non, mais Pelec a même plus la rondelle quand ça se passe. La rondelle est déjà partie. T'sais. Là, il reste 8 minutes au match. Comme je le répète, c'est le match que le Canadien doit gagner là, depuis le début de l'année. Là, pour plein de raisons qui ont moyennement rapport avec le hockey. Et là, il reste 8 minutes. Tu mènes 3-1. Puis là, tu pognes un 5 minutes pour un geste qui était totalement évitable. Il lève pas le coude. Il y a un 2, là, puis c'est correct, là, pour obstruction, mais il n'y a rien de plus, là. Mais là, tu lèves le coude. Là, tu mets ton équipe dans le pétrin en terre.
Là, ce qui va être drôle, c'est que, je vous répète, on n'a pas présentement sous les yeux la sanction de Brendan Gallagher. Fait que donc, je vais juste le répéter pour voir qui avait raison. T'as dit 4-5, Alexandre. 2-3, Simon Olivier. T'as dit quoi? 3-4, Stéphane, c'est ça?
J'ai dit 2-3.
2-3, moi je vais y aller avec 3-4. Là. Ça va jouer dans le 3-4.
On pourrait tous avoir raison en même temps, quasiment.
Si jamais on dit 3,
on peut faire 1-5.
On peut peut-être préenregistrer des réactions outrées au cas où c'est moins que ça. juste qu'on les aille prêts. Franchement, ça, c'est fait.
Ah, pas d'allure. Tiens, c'est fait, on prend ça puis on coupera ça au montage. OK, donc c'est une défaite des Islanders. Hey, les gars, juste vous dire, tant qu'à continuer un peu dans la bisbille, Patrick Roy, c'est 2 points sur 6 depuis son arrivée avec les Islanders de New York. Est-ce que c'est l'électrochoc qu'on cherchait?
En fait, il y a une raison pour qu'on l'a nommé, c'est parce que l'équipe, elle va pas bien.
Fait que, effectivement.
Effectivement, là, je veux dire, l'électrochoc, donc non. Mais les Islanders, c'est une équipe qui fonctionne pas du tout défensivement cette saison. Et comme on l'a vu, ils se tiennent en vie grâce au brio de Sorokin. Et on l'a vu hier, quand leur gardien les sauve pas, parce que Varlamov n'a pas été très bon contre le Canadien, ça ressemble au Canadien. Quand le gardien les sauve pas, ils gagnent pas. Et ils ont été malchanceux dans les circonstances parce que tu sais d'accorder un but comme ça en fin de match après avoir remonté, ça brise les jambes. Mais non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de travail devant lui, Patrick Roy.
Puis là, tu sais, il y a quand même un calendrier très difficile. Ils ont quand même pogné Dallas le premier match. Ils ont quand même battu les Stars. Hein. Il est quand même un gros club de la ligue.
Après perdu ça, contre Vegas. Perdu
ouais,
contre
mais Vegas, c'est quand même un bon club aussi. Oh, puis après ça, tu viens à Montréal où les enchères sont élevées pour ce match-là. C'est sûr qu'il y avait de l'argent sur le tableau hier. Ou en tout cas, des très bons repas.
On peut
dans
pas
les
dire
meilleurs.
Ça, c'est interdit par la
c'est
loi.
C'est sûr qu'il y avait de très bons restaurants promis à quelqu'un hier. Okay? Puis des ballons, puis du gâteau. Mais alors,
y a-t-il des chapeaux, des petits chapeaux de fête?
C'est trop cher.
C'est trop cher.
Ouais. Mais, tu sais, je serais pas prêt à le blâmer. Hier, c'est l'autre affaire qui est quand même... c'est le fun. Hier, je suis là pour chroniquer sur Roy, fait que je me suis vraiment concentré sur lui pendant le match, puis tu sais, je regardais tout le temps, ou presque, là, je regardais le jeu aussi, mais beaucoup Roy, puis c'est le fun de voir aussi différents types de coachs. Écoute, hier, en plein milieu d'un avantage numérique, mais c'était flabbergasté. Alors, il y a un avantage numérique, après une minute, les Islanders font un changement, puis pendant le changement, Roy, il se lève sur le banc des joueurs pour crier ses instructions, mais pendant que les gars changent, puis qu'ils sont debout pour faire le changement, là, tu sais, là, les gars, ils sont tous debout, ils essaient de se rasseoir, tu sais, lui, il prend de la place dans le milieu, c'est quand même le fun à voir, honnêtement, c'était vraiment un bon spectacle, alors, pour les gens là, qui étaient sur place, puis qui pouvaient voir, comme... tout ça.
C'est... La dynamique, là.
La dynamique, c'était quand même, ouais, c'était quand même fascinant.
Steph, qu'est-ce que t'en penses des Islanders?
Ben, c'est une équipe qui est meilleure que leur fiche, d'après moi, mais qui joue très mal, eux aussi, en défensive. Écoute, c'est l'équipe avec le Canadien dans la Ligue, à part les Sharks qui sont premiers, là, 2 et 3 à égalité, c'est les Islanders et les Canadiens qui donnent le plus de lancers au but par match. Et puis donc, deux équipes qui se ressemblent beaucoup, deux équipes que si le gardien de but ne vole pas le match, on ne gagne pas. Patrick a de l'ouvrage, il parlait des revirements, je suis tellement d'accord avec lui, beaucoup de revirements. Patrick a beaucoup d'ouvrage avec cette équipe-là, mais sont seulement à 2 points des séries, malgré tout ça. Autre chose, c'est t'sais, Patrick, il est assez intense depuis le début, là. 3 matchs et on garde beaucoup de séquences, on garde même, on a eu des séquences d'une pratique qu'il a donnée. Ouf, il est intense, ça n'a pas de bon sens, il ne pourra pas durer même jusqu'à la fin de l'année, il va mourir, c'est impossible. Il fait même pas une semaine qu'il est à la barre des Islanders, il était engagé le samedi passé, il va falloir qu'il relaxe un peu, puis qu'il prenne les problèmes un à la fois, mais je peux comprendre qu'il soit en anglais, on dit pump-pot, qui est très...
motivé.
Très motivé, pompé. Excité, pompé, exactement, pompé.
Tout simplement.
Mais je pense que ça va, même hier déjà, il n'y a plus de voix. Là, plus de voix, on va falloir qu'il fasse attention un petit peu ce côté-là. Mais ça, c'est l'émotion, puis c'est Patrick Roy, ça.
Le teint Bourgogne, il va ravir derrière le banc.
Non, mais c'est comme un...
Moi,
le feeling que ça donne, c'est comme si on avait pris un défibrillateur sur cette équipe-là qui est amorose, puis là, genre... Là, tu réanimes la patiente, là, il se réveille, puis là, tu dis, on va en donner une deuxième shot.
Mais par ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, parce que probablement, si vous avez vu le match, parce que les caméras étaient braquées sur lui, mais quand il a pris son temps mort à 3-0, avez-vous vu comment il n'était pas en train de crier?
Non, il montrait
le
tableau.
J'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout venant de lui. Puis, tu sais, quand je l'ai vu crier à son premier morning skate, j'ai fait, ah ouais, OK, ça va être ça. Et de le voir hier vraiment en train d'essayer de calmer ses joueurs. J'étais comme, OK, peut-être qu'effectivement, le cheminement est arrivé. Par ailleurs, ce que je voulais ajouter, quand on disait qu'il y avait de l'ouvrage qui l'attendait, il y a de l'ouvrage qui l'attend pour longtemps, parce qu'il peut louanger Lou Lamoriello tant qu'il veut. Lou Lamoriello a battu une équipe très étrange à New York et a donné des contrats à long terme comme si c'était des bonbons. Tu sais, Pierre Engvall, qui est un joueur pour moi complètement anecdotique, est lié aux Islanders jusqu'en 2030. Scott Mayfield, un défenseur de 31 ans, est lié aux Islanders jusqu'en 2030. Des contrats à long terme, il y a juste ça dans cette équipe-là. Alors, il faut que ça fonctionne. Puis, si ça ne marche pas, il croit, ça va être avec un autre entraîneur parce que les joueurs qui sont là sont vissés là pour toujours. Une reconstruction des Islanders, ce serait une catastrophe. Là. Fait qu'il y avait besoin d'un électrochoc, ils sont allés chercher Roy et je souhaite que ça marche parce que s'il faut que ça marche pas, ça va être longtemps.
Ça va être compliqué.
En
passant, y a-tu quelqu'un qui sait la longueur de son contrat?
À Patrick?
Personne qui a... Ouais.
Non, ça ressemble à un Martin Saint-Louis quand il est arrivé. Hein, ouais. On va faire l'année et on verra après. Là.
La Mariello, il est bon dans ses petits secrets-là aussi.
Ah, ouais.
Ils font des annonces, ils donnent pas les termes.
Il n'y a pas personne qui le sait. Ouais, je serais bien très curieux de savoir c'est pour finir l'année, c'est-tu un an, c'est deux ans?
Non, moi, je pense quand même... il doit avoir une certaine forme d'engagement à long terme. L'autre chose, tu sais, Lamoriello est quand même 82 ans. Là. Puis son dauphin dans l'organisation, c'est, ben, comprends ça, c'est que c'est son propre fils, Chris.
Ouais.
Mm-hmm. Tu sais, mais on pourrait aussi penser que Roy serait bien placé dans les circonstances, tu sais, mettons dans 2 ans ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe. Fait, quand même, dans une organisation, il y a des possibilités, mettons, de bouger aussi Roy. Là.
On va prendre quelques instants pour on va parler d'Arber Jacky. Parce que Jacky, dans le match d'hier, est copié de 2 pénalités. Dans un match où, hey, c'est rare les gars, mais je vous le dis, puis on va commenter rapidement là-dessus. Là. Je trouvais que les officiels, hier, il y avait des punitions, ça n'arrêtait plus. Là. C'était des punitions dans le bras, des punitions dans le bras d'un côté puis de l'autre. Vous trouvez pas que ça a cassé le tempo un petit brin, non?
Non,
j'ai pas vu beaucoup. Bon, dis-moi que j'ai raison, s'il te plaît,
oui,
Steph.
Oui, moi aussi, je pense que oui. Je pense que oui, souvent, il y a des punitions là, que si bas, là, c'est pas, on punit pas ce qu'on voit, on cherche des punitions.
Exact.
Ça devient, à un moment donné, quand tu cherches des punitions, le jeu est tout le temps arrêté, puis ça crée de la frustration
des
entraîneurs puis des joueurs.
Non, non, mais. Ça, Jacky était mérité, là, quand même.
Non, non, je suis d'accord, mais à un moment donné, t'as un avantage brique pour les Islanders. Okay. Là, ils vont donner un 5 contre 3 à l'Islanders. Tu sais, à un moment donné, arrête, là. Il y en a des punitions déjà, là. Laisse jouer les joueurs, à un moment donné. Mais tu sais, Arber Jacky, aujourd'hui, Simon-Olivier, je commence avec toi. Donc, Jacky a fait un meilleur coup de poing. T'es allé voir les coachs, c'est ça l'histoire?
Ouais, déjà, on était curieux moi, j'étais à l'entraînement ce matin, puis on était curieux parce qu'on l'a vu parler longuement avec Saint-Louis. Et avec Stéphane Rubida, qui est le responsable des défenseurs. Fait que, comme d'habitude, comme chaque fois, on demandait au coach, pis, de quoi vous avez jasé. Évidemment, comme d'habitude, on n'a rien su. fait que, mais Jacky lui-même s'est ouvert là-dessus après ça au groupe de journalistes. Je cite la presse canadienne parce que j'étais pas dans ce groupe-là spécifiquement. Il dit, je voulais crever l'abcès avec les entraîneurs. Je sais qu'ils étaient fâchés de mes punitions. Ils avaient raison. J'ai déçu mes coéquipiers. Je tenais à rappeler à Martin Saint-Louis que j'ai cette équipe à cœur. J'avais le sentiment que je faisais mal à l'équipe jeudi soir. Je désirais leur parler. C'est quand même un sacré acte de contrition.
Ouais, pour un jeune joueur, tout à fait. Ouais.
Exact.
Pour suite à ta question dans le point de presse où tu as posé la question, qu'est-ce que tu en penses des punitions de Jacky?
À Saint-Louis, oui, c'est ça.
À Martin Saint-Louis, quelle a été sa réponse?
Sa réponse a été j'adore pas ça. Puis bon, on s'entend que si on prend les mots eux-mêmes, c'est pas exactement incendiaire, mais Saint-Louis critique peu ou pas ses joueurs après des matchs. Alors, pour qu'il concentre toute sa pensée là-dedans, ça veut dire qu'il adore vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Et probablement que Jacky le sent et le sait.
Ben, je suis sûr que quelqu'un traduit pour Albert Jacky avant qu'il aille se coucher hier. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'adore pas ça.
Ça avait été traduit sur les réseaux sociaux, en tout cas.
Ouais, donc, bref, c'est sûr qu'il n'a pas bien dormi. Tu sais, c'est
pas très impressionnant, Jacky, d'autant plus qu'il avait écopé d'une punition en troisième période contre les Sénateurs, une punition complètement inutile contre Claude Giroux, le long de la bande, loin du jeu. Je le sens nerveux, Jacky, puis c'est compréhensible dans la mesure où je pense que c'est un gars qui semblait assez au-dessus de ses affaires en début de saison, puis qui a été très surpris par son renvoi dans la Ligue américaine. Fait qu'à son rappel, évidemment qu'il veut bien faire. Mais là, si c'est trop nerveux puis qu'il prend les copes des punitions inutiles, je sens pas du tout sa présence physique dans ces deux matchs-là non plus. Je me dis, ben, qu'est-ce qui reste?
C'est sûr qu'il doit se poser des questions sur son identité au sein de l'équipe.
Ben,
pas tant
parce qu'il met quand même ce deuxième avantage numérique.
Ben, ils l'ont sorti. Ils l'ont même assis les dernières minutes. Puis,
je comprends.
Écoute, là, ça fait 2 fois cette saison que Saint-Louis, le ramasse. Moi, je suis sûrement un des plus grands critiques du jeu de Jacky cette année. Puis, tu sais, il a assez critiqué cette année pour là, lui donner un break. D'ailleurs, j'étais en faveur de son rappel dans le dernier balado qu'on a fait lundi, tout de même. Et aujourd'hui, je vais quand même lui accorder le crédit d'avoir fait un meilleur coup de pas parce que pour régler ses problèmes d'indiscipline et surtout d'impulsivité, d'abord, il faut les reconnaître. Je pense, en tout cas, depuis le début de l'année, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'actes de contrition là-dedans. Il ne comprenait pas pourquoi il était renvoyé. Il ne comprenait pas pourquoi il était pris à partie. Là, aujourd'hui, il le fait. C'est un pas dans la bonne direction pour qu'éventuellement, il retrouve l'identité qu'il avait dans ce club-là l'année dernière. Tu ne peux pas être juste un gars qui met ton équipe dans le trouble. Puis là, c'est l'étiquette qu'il a là, quand même depuis son rappel au début de la semaine. Et pour moi, j'ai hâte de voir si Saint-Louis va le faire jouer demain, mais... Si t'es un gestionnaire qu'un jeune joueur qui s'excuse comme ça, ça peut être une bonne idée de lui donner une deuxième chance. Puis peut-être qu'il va en donner plus encore que le client demande. S'il est capable de régler son impulsivité, il peut redevenir un joueur utile pour ce club-là.
OK, Steph, comment tu vois ça, toi, Jacky, qui va voir le coach pour dire excuse-moi?
Moi, je pense qu'il essaie d'aller voir les coachs de Saint-André. Excusez-moi, les gars, de s'attirer la sympathie des
coachs. De réparer les pots cassés.
Exactement, tu sais, c'est comme excusez-moi puis tout ça, puis tu sais, ça c'est un signe qui qui manque de manque de confiance, c'est un signe de j'ai peur de me faire sortir de l'alignement, j'ai peur de retourner à Laval, j'ai peur à ma job. Ça, là, c'est le même, je le vois. Et puis autre chose, c'est que j'ai bien aimé les, quand même, les commentaires de Martin Saint-Louis qui dit en quelque part, je ne veux pas y enlever ça pourquoi il est ici. C'est de jouer d'une façon physique. Et puis, mais c'est de trouver la ligne, la fine ligne. Et ça, c'est de l'expérience, ça. Il est encore jeune, Jack High, seulement sa deuxième saison de Ligue nationale. Il y a 2 ans, il jouait junior. Et puis, il est encore en train d'essayer de trouver la ligne, puis jusqu'où il peut aller, puis de doser ça. Et ça, puis tu peux pas dire, c'est dur d'y reprocher, de dire, ah, tu prends des mauvaises punitions, parce qu'à un moment donné, tu veux pas qu'il change son identité. Mais à quelque part, c'est à Jack Hayes du tout, à être assez intelligent pour trouver c'est quoi une bonne punition, c'est quoi qui est une mauvaise punition, le temps, et puis doser ça, puis de trouver la fameuse fine ligne. Les vétérans, il y a des vétérans qui jouent très dur dans la Ligue nationale, puis sont capables d'aller à la limite. Et lui, mais en ce moment, il est à la recherche de tout ça. Donc, il faut faire attention de pas trop changer son identité. Et dans ce sens-là, j'ai aimé les commentaires de Martin Saint-Louis.
Mais tu sais, il faut dire une chose, puis Alexandre, je vais t'entendre
juste. Excuse, je veux juste pour finir. Oui, c'est vrai que les trois, en 2 matchs, 3 punitions. Puis 3 mauvaises punitions.
Okay.
Tu sais, une bonne punition, un bon body check ou un bon quelque chose devant le net là, qui peut dire hey là, touche pas mon goaler ou quelque chose. Ça peut être des fois des bonnes punitions, mais ceux qu'il a pris, c'est des mauvaises punitions, puis il doit apprendre à gérer ça.
Ben, c'est le point que je voulais amener, puis Alexandre, je veux t'entendre après. Tu sais, c'est pas des pénalités d'assaut, double échec, donner de la bande. Non, c'est bâton élevé, retenu. Tu sais, sincèrement, contrôle tes bras, contrôle-toi, donne un coup de patin de plus, remets-toi dans une bonne position, ouais. Donne des bonnes mises en échec.
Des doubles échecs à des gars qui ont même pas la rondelle.
Ça, c'était.
Mais moi, je suis curieux. Stéphane, tu sais, t'as été dans un personnel d'entraîneur. T'arrives ce matin, OK? Là, Jack High, là, se fait 3 mauvaises punitions en 2 matchs, là. Là, l'entraîneur-chef l'a un petit peu ramassé hier. Mettons qu'il n'était pas allé voir les entraîneurs aujourd'hui, comment vous auriez réagi dans le personnel d'entraîneur?
Ça dépend, ouais. Ça dépend qui, quel entraîneur. Mais moi, je sais bien que j'ai des coachs qui me viennent en tête que ça n'aurait pas été donc en arrivant à l'aréna, c'est dans le bureau, puis là, faut que tu te contrôles, puis si, puis c'est ça. Et puis, dans le cas de Martin Saint-Louis, je suis pas sûr que c'est le même qui fonctionne. Il veut justement pas y enlever son identité. Donc, il a peur de dire, bon, il faut que tu fasses attention. Mais c'est certain qu'il y a un message qui se fait à l'intérieur. Je pense pas que le joueur a besoin d'aller voir le coach Sadlas pour dire, hey, excuse-moi, puis hier, puis si, puis c'est ça. Donc, c'est un petit peu d'une façon particulière qu'on l'a abordé avec le Canadien de Montréal. Je dis pas que c'est pas bon. Au loin de là. Mais c'est certain que dans mon temps, j'ai une couple d'entraîneurs en tête, là, un Joël Canville ou un Michel Therrien. Le matin, il aurait amené son joueur dans le bureau, puis il aurait eu une bonne discussion.
Mais t'en as-tu vu souvent des joueurs aller s'excuser, mettons, au coach quand t'étais
là? Non.
C'est ça.
Très rare. Très rare. C'est le coach.
Puis là, il a fait ça Sadlas devant tout le monde.
Oui, puis après ça, il y en a parlé aux journalistes.
Ça me fait dire que tu sais, il essaye de s'attirer la sympathie de tout le monde.
Il y a un petit peu de choix là-dedans. Il aurait pu le faire pour lui-même. Je pense qu'il faut que tu fasses ça en plein milieu de la chambre devant tout le monde. En disant, hey les boys, c'est mon erreur, excusez-moi.
Il a peut-être fait aussi.
Tu parles au coach dans la chambre. Tu dis, gars, les gars, excusez-moi, je vais essayer de m'arranger. Tu fais pas ça devant tous les journalistes.
Moi, je vois ça différemment. Moi, je vois ça comme il est contrit, il est pas content de ce qui est arrivé. Il a d'ailleurs dit, j'ai laissé tomber mes coéquipiers. T'sais, quand tu dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu le ressens là, aussi. Là, je pense pas qu'il y ait de faux feeling.
OK, on va voir qui Simon-Olivier, tu te ranges de quel côté?
Je suis bien embêté. je pense pas qu'il essaie juste de s'attirer la sympathie. Je pense que c'est sincère, je pense qu'il y a, comme le dit Stéphane, je pense qu'il a peur pour sa job aussi.
Ben oui.
Puis il a raison d'avoir peur pour sa job parce que le Canadien en a beaucoup, les défenseurs. Lui, il est chanceux, entre guillemets, parce qu'il est le seul à justement apporter autant de robustesse. Mais on l'a appris cette saison. La patience de Martin Saint-Louis n'est pas infinie. Et faut que la tendance s'inverse. Écoutez, cette saison, là, Jack High est rendu à 14 punitions mineures en 19 matchs. Ouais. Déjà l'an passé, on le trouvait indiscipliné. Il y a eu 18 punitions mineures en 51 matchs. Il a quasiment atteint son total de l'an passé en moins de la moitié des matchs. C'est vraiment est de loin le joueur le plus indiscipliné du Canadien. Puis on en a vu, tu sais, on parlait des bonnes punitions tantôt. Je vous renvoie tôt dans la rencontre contre les Islanders. David Savard fonce sur une rondelle libre, le filet est désert et Cal Palmieri sort le bâton et sauve un but à son équipe. Ça, c'est une très, très bonne punition.
Ouais.
Jacka, c'est rare que c'est ça.
En fait, son différentiel de punition est de moins 10.
Ouais.
Malgré son retour à la base, c'est le pire différentiel de l'équipe.
Stéphane? J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui dans le sens que, pauvre gars, il doit être mêlé aujourd'hui.
Ah,
là.
Oui.
Il doit dire, moi, là, ma job, là, c'est de jouer tough physique, mais il ne faut pas que je prenne des punitions.
Mm.
Fait que là, tu sais, c'est le gars, il dit, mouge, comment m'en faire ça? Comment m'en faire ça? Il y a une façon de le faire avec l'expérience, mais c'est quand même quelque chose qu'il doit être très, très inconfortable avec ça. Comment je vais faire pour jouer? Parce que s'il ne joue pas physique, il est tough. Il des fois même, il faut le dire, des fois un petit peu chien. Il est sur la ligne pour rester dans la Ligue nationale s'il n'y a pas ça.
Mais ils vont donc tester là, les autres équipes.
Moi, je pense qu'il y a deux ingrédients là-dedans qui ne sont pas bons pour lui. T'sais, imaginez-vous là, dans le meeting des refs, là, des arbitres avant le début du match. Là, un, ça fait deux ans, puis deux, on l'appelle shérif. T'sais, à quelque part, en début de saison, on devrait dire « OK, non, on va le checker un peu, le kid. Là. Je ne sais pas ce qui s'en va, mais on va regarder un peu. On va le garder aller. Stéphane, je veux te parler de Samuel Montembeau. Puis les gars, je vais vous entendre là-dessus. Okay? Samuel Montembeau, qui est encore une fois solide en début et en fin de match. En début de match, Montembeau n'est pas solide. Écoute, c'est 2-0, les Islanders. En fin de match, ça n'a juste pas de bon sens. Les poteaux, les jambières, tout a passé. Montembeau, encore une fois, fait un job exceptionnel dans le match d'hier.
Ben, totalement d'accord. Écoute, hier, là, moi, là, c'est un beau test encore hier une fois. Puis ça, c'est encore une autre étape qu'il a franchi hier. C'est quoi que je veux dire? C'est qu'il a donné 8 buts à Boston. Il est revenu fort. Ça, c'est un autre signe que le gars a quelque chose pour être un numéro un. Ça, là, c'est très, très important. Puis ça, c'est la plus grosse chose que j'ai retenue hier. C'est le gars a rebondi après avoir donné 8 buts. Ça ne l'a pas dérangé, ça ne l'a pas shaké, ça ne l'a pas mis ses talons. Et puis, ça, c'est un beau signe de gardien de but numéro un, quand on dit short memory dans le hockey, spécialement un gardien de but après une mauvaise partie ou un mauvais match. Il nous l'a démontré. Ça, c'est important. Autre chose, écoute, moi, là, c'est la première étoile du match. Ouais. 47 lancés. Deux gros arrêts en début de première période.
Ouais.
Si les Islanders score là, c'est 1-0, c'est peut-être complètement différent ce match-là. Peut-être. Puis on sait pas, mais ça, c'est les genres de rattler à un bon moment qui changent le cours d'un match. Et en fin de match, il a préservé ça. Et puis, écoute, là, quand même, il faut être lucide. Là. Le Canadien a donné 47 lancés contre 28. Là. Même si les Islanders ne m'ont pas impressionné, ils méritaient peut-être de gagner plus que le Canadien à cause du fait qu'on a dirigé beaucoup plus de lancers au filet. Le Canadien était très opportuniste avec les unités spéciales. Même Montembeau, bravo. Et encore là, ils viennent de montrer quelque chose de nouveau qui est, ça ne m'a pas ébranlé les 8 buts à Boston.
Dis-moi, juste savoir les 3 étoiles du match, c'était qui hier déjà?
Pas Montembeau. je veux dire, c'était pas Monahan, qui, c'était pas Montembeau. C'était Monahan la première.
Et Suzuki.
Suzuki, pas Montembeau.
Monahan, c'est l'évidence.
Non, mais ça vaut ce que ça vaut, les étoiles.
Aussi, mais...
ça vaut ce que ça vaut, mais c'était juste
pour... on s'est regardé hier, tout le monde s'est regardé ça. Mais voyons donc, ils ont oublié Montembeau. Voyons.
Ouais. Bon. Et Brazil, en passant, il était bon hier.
Oui, il était très bon. J'aimerais ajouter sur Montembeau tout ce que Stéphane a dit, plus j'aurais aimé ça le voir contre les Sénateurs. Moi, j'ai vraiment... évidemment, le ménage à trois, on en parle tout le temps. L'organisation a des besoins, qu'il faut que les autres gardiens jouent. Quand on partant accorde 8 buts et retiré du match et furieux après le match contre Boston, j'aurais trouvé que ça aurait été de la saine gestion de le renvoyer devant le filet contre les Sénateurs. Puis cette occasion-là de rebondir, puis on sait qu'il est capable, j'aurais voulu l'avoir mardi, alors que mardi, il était même pas en uniforme. Il était dans les estrades parce que c'était son tour d'être le troisième.
Mm-hmm.
Je sais pas si Stéphane est d'accord ou pas, mais...
Oui, je suis d'accord.
Fallait redonner sa chance, fallait redonner le but rapidement, qu'il rebondisse de ça. Puis finalement, tout est bien qui finit bien. Il a gagné, il a rebondi, il a montré qu'il est capable, mais... faut que ça finisse. Faut qu'on passe à d'autres choses.
Probablement, si c'est pas un ménage à trois, c'est Montembeau qui revient dans le net. Je suis d'accord avec ça. Totalement d'accord.
Hey, j'imagine le coach et gardien de but, Éric Raymond, c'est ça?
Oui. Ouais.
Tu sais, Stéphane, tu disais souvent que tu gérais le calendrier de Carey Price. Éric Raymond, j'avais pas grand-chose.
J'en ai aucune idée, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense que même Martin, j'aurais pas eu grand-chose dans ce côté-là, dans le sens que la direction, puis Kent Hughes nous l'a dit il y a à peine 2 semaines, il l'a dit, il dit, écoute, on est pris avec 3 et il faut qu'ils s'arrangent pour que les 3 jouent.
Jake Allen va être encore devant les buts demain.
Ouais, troisième départ dans sept matchs, Allen. Demain. Si on n'est pas en train de le montrer, je pense que je sais pas ce qu'on
fait. Je sais que Stéphane ne croit pas la proverbiale vitrine, mais là, je pense qu'il est dans la vitrine un petit peu beaucoup, énormément.
Je vous souhaite un bon match.
Oui, puis avec raison. Pourquoi pas le mettre dans la vitrine? On fera pas série. Donc, on est pris avec 3. Il faut le montrer en espérant que Jake joue bien et puis que ça ouvre les yeux à une équipe. Puis, avec raison pour ce qui est de ma part.
Bon, mais écoute, si Jake Allen est dans la vitrine, où est Sean Monahan? Et si vous voulez mettre Sean Monahan dans la vitrine, comment vous faites bâtir une maison sans fondation? Toutes ces questions et ces réponses au retour. Restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 33, avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Lorange et Stéphane White. Les gars, Sean Monahan, il va d'une poussée de 2 buts hier. Sincèrement, il a été extrêmement efficace. Et là, je le sais que tout le monde dit que ça serait un choix de première ronde pour Monahan. Je reviens avec la même question version 4.0. Comment tu fais pour bâtir un club si tu te prives d'un gars comme Sean Monahan? Simon-Olivier, je commence avec toi.
Ben là, c'est un peu maudit parce que là, on présume qu'il faut que le Canadien a besoin de Sean Monahan à long terme. Fait que c'est pas.
Est-ce que tu considères que si tu rebâtis un club, t'as besoin d'avoir un vétéran joueur de centre qui est capable de te donner de bonnes minutes une production offensive? Est-ce que t'as besoin de ça?
Ben, évidemment, mais Monahan, puis on en a déjà parlé, je pense que tout revient à c'est quoi le prochain contrat. Parce que Sean Monahan, là, il a 29 ans. Je sais pas c'est quand qu'il va fêter ses 30 ans, mais c'est donc il commencerait son nouveau contrat à 30 ans. Le contrat de Brendan Gallagher, ça vieillit bien, hein, ça vieillit bien. Un contrat de 6 ans qui a signé à 28 ans, qui a commencé à 29 ans, qui pour 6,5 par année, ce qui est probablement ce que Sean Monahan pourrait exiger ou proche d'eux. Sean Monahan, c'est un joueur qui a un gros historique de blessures, puis je sais qu'Antoine Roussel, qui est pas ici pour se défendre, mais est un de ses plus ardents partisans, on a 5 ans, tout ça. Et là, les partisans sont dithyrambiques sur les réseaux sociaux, là, tout le monde est fou comme la marde, là, faut signer Sean Monahan pour longtemps, donner beaucoup d'argent. Ben, c'est ça. Sean Monahan, je pense que oui, je pense qu'il est très important pour le Canadien présentement, je pense qu'il peut être important pour le Canadien dans un futur rapproché, mais, je pense pas que le Canadien aura avantage à se marier avec. Je pense que ça peut être une option de le garder pour quelques années, peut-être pas à très long terme. Et surtout, ce que je vois présentement, c'est la valeur de Sean Monahan, si elle explose, ben si Kent Hughes peut aller chercher un très bon retour, ben je pense pas qu'il va se refuser ce plaisir-là.
Okay.
J'en suis là.
Alexandre?
Ben, le Canadien va avoir besoin de vétérans pour réussir sa reconstruction. Là, j'ai chroniqué là-dessus il y a 2 semaines. Vraiment, présentement...
Parce que les sénateurs d'Ottawa, c'est ce qu'ils disent. On a besoin de bons vétérans pour encadrer nos jeunes.
Il y a quand même une forte tendance présentement à ce que les joueurs qui ont comme entre 28 puis 32 ans dominent la Ligue. Là. Il y a énormément de trentenaires, de jeunes trentenaires dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. Tu sais... Ça va être difficile. Faut pas répliquer l'erreur, en fait, qui est arrivée à Buffalo puis l'erreur qui est arrivée à Ottawa de juste y aller avec juste des jeunes tout le long. Ça prend des vétérans qui montrent le bon chemin aussi, la victoire, puis bon, comment gérer tout ça. Là, il y en a un qui correspond en tout point à cette description-là. T'sais, dans un monde idéal, il serait déjà sous contrat long terme. Mais bon, pour toutes les bonnes raisons, qui a été blessé, entre autres, il est sous contrat pour seulement 1 an. T'sais, la vraie question de ça, c'est est-ce que Sean Monahan voudrait même s'engager t'sais, à long terme avec le Canadien ou préfère tester le marché des joueurs autonomes. Puis, s'il n'est pas prêt à signer une prolongation à un terme correct pour le Canadien, mettons un terme de 3 ans, par exemple, t'sais, s'il demande 5 ans puis le Canadien n'est pas prêt à dire « Ah non, on va se lier jusqu'à 35 ans », t'es mieux de l'échanger t'sais, platement là, puis d'essayer d'en trouver un autre sur le marché des joueurs autonomes. Mais ça va prendre des joueurs comme lui. Assurément, là, il y en a un, il y a une possibilité de le faire. Mais tu sais, tu peux pas non plus donner 2 années de trop dans un contrat. Puis, sérieux, être Sean Monahan, tu viens de ressusciter, ta cote est en haute. Je veux dire, être son agent, c'est sûr que je lui recommande de tester le marché des joueurs autonomes.
Dans l'onglet année de trop, les jeunes années à Brendan Gallagher, c'est ça?
Ben, Jake Allen, à Gallagher, à
Josh
Anderson, Alouette. OK, hey, Stéphane, est-ce qu'on peut.
Carey Price. Attends, on n'est pas fini, on peut continuer. C'est Weber plus
là. Hey, Carey Price, comment? S'il n'aurait pas été blessé, là.
Non, même, je suis d'accord. Moi, honnêtement, pour le. Non, mais je vais être franc, moi, le contrat de Carey Price. S'il avait pas donné, jamais le Canadien se serait rendu en finale de la Coupe. Fait que ça, je le défends, ce contrat-là.
Oh mon Dieu, on sort un autre débat. C'est bon? Non, je
non, mais est-ce que le contrat. Okay. Est-ce que le contrat de Price a fait mal au Canadien à date?
Non, parce que c'est à cause du contrat de Price qu'on peut acquérir Sean Monahan et un choix de premier tour vont peut-être avoir un deuxième en échange.
Non, mais c'est mon point. Ce contrat-là n'a pas fait mal au Canadien. Je veux dire, il disait même maintenant en finale de la Coupe Stanley.
Ouais, t'as raison.
Aucun problème avec le contrat.
Sean Monahan, écoute, là. C'est certain que c'est quand on parle de, on veut ça prend des vétérans pour entourer ces jeunes-là. Quand on dit que ça prend des vétérans, on parle tout le temps de bons vétérans. Et puis Sean Monahan, il est drette là-dedans. Sean Monahan, écoute, c'est un des bons joueurs du Canadien depuis le début de la saison. Et la plus belle affaire dans le cas de Sean Monahan, c'est qu'il a joué 48 matchs en 48 parties. Ça, c'est bon pour lui et c'est bon pour le Canadien, si on veut l'échanger. Parce que Sean Monahan, je suis d'accord avec Alex puis Simon Olivier, à 29 ans, là, c'est sa dernière chance d'aller chercher un gros contrat. C'est sa dernière chance. Et puis, il va tout faire pour. Donc, est-tu prêt à le signer, je sais pas, moi, 6 ans, 6 millions par année? Je suis pas sûr de ça. Surtout qu'on va avoir beaucoup de jeunes qui... Dans quelques années, il va falloir renouveler le contrat. Et, c'est sûr qu'on a Suzuki Caulfield à long terme, mais à un moment donné, on va en avoir d'autres. On va avoir un Slavkovski dans quelques années. On va avoir un Goulet dans quelques années. Ils vont coûter cher. Donc, il faut faire attention de s'engager avec un gars de 29 ans qui a un historique de blessures comme Sean Monahan à long terme. À court terme, un salaire raisonnable, c'est raisonnable. C'est sûr que je dis oui. Je suis Kent Hughes, j'ai dit tout de suite. À court terme, pas plus que 3 ans, un salaire raisonnable.
C'est quoi raisonnable?
Oui. Ben, c'est pour ça, 5 millions, mais c'est pas ça que Shanahan va avoir. Il va avoir plus long que ça et plus d'argent que ça.
Juste ajouter, par exemple, dans la colonne des pour l'échanger, c'est la meilleure monnaie d'échange que Kent Hughes a jamais eue à la date limite des transactions. Tu sais, Kent Hughes a échangé Tyler Toffoli, il a échangé Ben Sherratt, il y a eu des shoots de premier tour. Ben Sherratt, son action était très élevée, mais je pense qu'on sait tous que c'est un défenseur plus de profondeur. Il a échangé Arturi Lehkonen pour un espoir pour un choix de deuxième tour. L'année passée, ses joueurs à échanger se sont blessés. Bon, pas de chance. Puis dans les joueurs à échanger, il n'y en a pas d'autres là, sur le radar. Peut-être l'année prochaine, David Savard, qui va être en année de contrat, peut-être qu'il va avoir une espèce de buzz, mais présentement... Kent Hughes a peut-être le ou un des trois joueurs les plus en vue, les plus en demande à la date limite de transaction. Donc, s'il y a une surenchère, si les DG virent fou, il peut faire un coup de circuit, selon moi. Et le Canadien, on en a, ça aussi, on l'a dit souvent, est pas si proche que ça d'être compétitif, de gagner. Alors oui, c'est vrai que Monahan a un rôle important, mais si le retour est si grand qu'on peut pas dire non, faut pas dire non.
En fait, dans un monde idéal, ils l'obtiennent contre un jeune joueur déjà actif. Moi, je préférerais ça
à transaction hockey et pas des choix repêchage. Transaction hockey.
Puis deux, cet été, t'essayes d'ajouter au moins un vétéran au centre. Là. Parce que, tu sais, Kirby Duck, il y a beaucoup de pensées magiques de genre, tout va être idéal quand il va revenir, mais... Hey, ça te prend un minimum de police d'assurance. Là. Écoute, pense juste à une affaire. Mettons que Suzuki se blesse là, pour, je sais pas, un mois. Ça peut arriver. Là. Suzuki il est sur une séquence extraordinaire de matchs consécutifs. Là, mais hey, ça te prend des polices d'assurance. Tu parles, on veut développer nos joueurs, on veut qu'ils progressent. Puis, tu sais, tout tient autour de si tu joues pas avec Suzuki présentement, c'est tough progresser dans l'équipe. C'est ça, là, tu sais. Alors, écoute.
C'est un jeu dangereux, là.
Exactement. Tu sais, ça tient à pas grand chose présentement, la progression, tu sais, ou le développement. Alors, quand tu joues, pas à l'extérieur de la glace, mais quand tu joues, tu sais, c'est beaucoup lié à Suzuki. Ben, ça prend d'autres joueurs pour le protéger aussi dans l'alignement. Puis, mettons que Dark, ça se passe pas exactement comme prévu et sa réhabilitation et tout ça. À un moment donné, il va falloir que le Canadien investisse dans certains vétérans. Mmh. Ça manque à l'équipe.
Est-ce que c'est moi qui ai halluciné, Stéphane, ou c'est toi qui parlais? Tu sais, un exemple, un Sean Monahan avec Jake Allen dans un package pour aller chercher des joueurs. C'est toi qui me parlais de ça, hein?
Oui, mais ça va falloir que ce soit ça. Ça va un package parce que les choix au repêchage, on n'a plus vraiment besoin. Donc, à partir de là, ce qu'on veut, c'est amener des jeunes d'espoir qui sont pas rendus à maturité, qui vont pouvoir nous aider pour 4, 5, 6 ans, qui vont pouvoir jouer avec le Canadien. Et puis, à partir de là, mais un Sean Monahan peut-être intéressant si tu ajoutes un deuxième choix avec Sean Monahan ou un deuxième choix et un défenseur style, je ne dis pas lui, mais style Harris. Avec ça, un genre de package-là, je pense qu'on peut avoir un joueur qui, une équipe qui est prêt à gagner demain, serait prêt à laisser. Et puis ça pourrait être très intéressant. Et là, tout de suite, je pense, quand je pense à un Sean Monahan, les gars, t'as deux équipes qui me viennent en tête tout de suite, puis même peut-être une troisième, mais t'as Colorado qui ont besoin de profondeur au centre, urgent. Ça serait tout un fit là. Boston, qui ont seulement deux joueurs de centre, qui ont de la misère, pas de profondeur au centre, surtout depuis le départ de Krejci et Bergeron. Il fitera-tu là, direct demain matin, et peut-être Edmonton éventuellement, mais là, ils vont aller chercher Corey Perry. Mm-hmm. Mais ça serait des bons fits, et ces équipes-là, probablement, qui seraient prêtes à payer un espoir.
En fait, moi, l'échange que je pense qui pourrait être le modèle pour celui de Sean Monahan, c'est celui de Claude Giroux. Quand les Flyers ont échangé au Panthers de la Floride, ils ont donné Owen Tippett qui a signé aujourd'hui un contrat à long terme. Et Owen Tippett, cette saison, qui est spectaculaire à Philadelphie. Chez les partisans du Canadien en ont eu un exemple quand le Canadien s'est fait malmener par les Flyers à Philadelphie il y a 2 ou 3 semaines. Tippett était partout sa patinoire. Et en plus d'un choix de premier tour repêchage en 2024. L'échange date déjà de 2 ans. Donc, le Canadien, c'est peut-être ça le prix qu'il pourrait chercher pour Monahan, un espoir de haut rang et un choix de haut rang. Si c'est ça, j'insiste, s'il y a ça sur la table, je crois que Kent Hughes va y
aller. En fait, ça va beaucoup dépendre, je pense, des Flames, parce que si les Flames deviennent vendeurs puis décident d'y aller dans une reconstruction totale puis mettent Lindholm sur le marché, ça risque de retarder l'échange de Monahan dans ce sens où les équipes, leur joueur, leur première cible va être Lindholm.
C'est plus compliqué d'acquérir Lindholm qui gagne le triple du salaire.
Je trouve que le potentiel est plus élevé.
Je veux juste revenir avec les Bruins de Boston. T'as parlé, Stéphane, des Bruins de Boston. T'as dit, tu mets un Sean Monahan, tu rajoutes un Harris, un choix là-dedans, tu pognes un choix plus un jeune joueur potentiel. Tu sais, Matt Poitras qui pourrait être dans l'équation.
Exactement. Hey, c'est drôle, je pensais justement à lui quand tu me défilais ça. Et puis exactement le genre de ça serait le genre d'échange qui serait bon pour les deux équipes à long terme pour le Canadien et à court terme pour les Bruins. C'est exactement ça. Et j'aime l'exemple de Simon Olivier là, quand il parle de l'échange de Giroux. Exactement le même genre d'échange.
Bon, Alexandre, t'avais l'air à faire le pisse vinaigre.
Avec les Bruins, je le ferais pas. Là. Je veux dire, Poitras est quand même... c'est une organisation qui a pas eu beaucoup de choix élevés au repêchage, mettons, dans les 10 dernières années. Puis là, ils ont frappé un coup de circuit, ou en tout cas un triple avec un joueur repêché plus tard. C'est un de leurs jeunes joueurs qui performe. J'aurais tendance à vouloir le garder. Ceci dit, ils ont d'autres joueurs aussi qui sont échangeables dans les Bruins. J'aurais tendance à vouloir le
garder. Mais nous autres, on avait un deal. Là. Tout le monde avait dit oui, sauf toi. Là.
Qui dit non? Moi.
C'est ça, on avait un deal, nous autres. OK, hey, les gars, le temps file. Je veux vous... sortez votre boule de cristal, tout le monde. Attention, sort la boule de cristal. Et voilà, OK. Encore une fois, c'est Radio Théâtre 1957. on a sorti la boule de cristal. Et je vous demande, parce que là, il y a tellement eu... Écoute, c'est le festival du cliché toujours. Quand il y a une mauvaise performance, le Canadien rebondit là, le match suivant. Là, on est arrivé, mauvaise performance contre Boston, pouic, le match d'après, puis ça n'arrêtait plus. Là, je me suis dit, OK, le cliché ne fonctionne plus. Là, le Canadien joue un match en 2 temps. Connaît un bon début de match, resserre à la fin, trouve le moyen de gagner 4-3 face aux Islanders dans un match émotif. Comment est-ce que le Canadien va sortir pour son dernier match avant la pause, avant cette semaine de congé face aux Penguins de Pittsburgh? Boule de cristal, Simon Olivier, ça te dit quoi?
Ah, je pense que ça va être une défaite.
Oh là là.
Je vais utiliser mon habituelle analyse. La dernière fois, j'avais dit que dans le petit voyage de 3 matchs, le pire match serait celui des Sénateurs. Finalement, il y a eu la 3e période à Boston qui m'a donné tort, mais ça a été une horreur à Ottawa parce que je disais que c'est un club qui va mal et comment mieux se relancer que contre le Canadien. Les Penguins sont un club qui va mal, sont présentement loin des séries éliminatoires, ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Là, ils affrontent les Panthers ce vendredi soir. Je sais pas comment ça va aller, mais je pense que tout est en place pour une belle victoire contre le Canadien.
Parfait. Ouais. Alexandre.
Je pense aussi à une défaite parce que le Canadien, depuis le début de la saison, réagit mal après les matchs à haute intensité.
Ouais.
C'est comme s'ils ont de la misère à gérer l'adrénaline. Puis quand il y en a beaucoup dans un match comme celui d'hier, on dirait que quand ça retombe, ils sont un peu flat après. Fait que je crains une défaite.
OK, Stéphane?
Ben, je pense la même chose. honnêtement, et la grosse chose, c'est que ça revient au manque de constance.
Ouais.
Hier, beaucoup d'émotions. On s'emporte vite avec le Canadien. Une grosse victoire, puis là, au moment donné, là, c'est tout va bien, vite. Et donc, manque de constance, mais surtout aussi le fait que, je le sais, je l'ai vécu souvent, le fameux dernier match. Là, les gars là, sont en train de faire leur valise. Ils ont toute la tête aux Bermudes ou whatever où ils vont aller.
C'est le Mexique cette année qui est trending, sachez-le.
Ah oui, Mexico. Ouais.
Exact. Mais ils ont toute sa tête là. Et puis, c'est normal. Là, il nous en reste une. Après ça, les gars, c'est 8 jours, on s'en va. Et les gars, honnêtement, ils ont out. Et puis...
Hey, je suis curieux, Stéphane. Que... OK, quand je couvrais le baseball, hein? Le dernier match de la saison... Je vous jure, il y a des lanceurs.
Ouais.
Écoute, j'ai déjà vu un lanceur qui commençait le match pour les expos. Qu'on est allé dans le vestiaire après le match, il était déjà parti à l'aéroport.
Sérieux?
Absolument. Puis alors, je serais curieux de savoir. Les derniers matchs de la saison, c'est la dernière journée de la saison, c'est les matchs les plus courts de la saison. Il y a plein de matchs en bas de 2 heures. Puis si vous faites un pool dans votre dernière journée, sérieux, prenez pas les lanceurs.
Eh bonne. Puis j'ai pas de misère à te croire. Mais moi, je pense que surtout les célibataires, les jeunes, ils partent de Pittsburgh. On envole de Pittsburgh après le match, puis on s'en va.
Non, c'est ça ma question. Ils ne viennent pas à Montréal entre les deux. C'est-à-dire, si tu veux partir, tu pars.
Convaincu que beaucoup de joueurs, la moitié des joueurs, vont partir direct et ils ne reviendront pas à Montréal. Donc, il va y avoir beaucoup de place dans l'avion pour revenir. Et les gars qui vont revenir, mais c'est pour venir chercher leurs enfants puis leurs épouses puis partir tout le monde ensemble le lendemain matin.
Hey, les joueurs, là, en as-tu déjà vu partir loin, genre pendant cette semaine-là? Je sais pas, en Europe ou en Asie, mettons?
Je pense que j'en ai déjà parlé. Là. Je me souviens de Murray, le gros Murray, Douglas Murray, qui à un moment donné, on avait 3 jours de vacances au fête. 3 jours de vacances, lui, il est retourné chez eux, c'est un Suédois, lui, même s'il n'y a pas le nom d'un Suédois.
Okay.
Il est allé en Suède, on avait 3 jours de vacances, il est allé en Suède.
Wow!
Ça, c'est le pire que j'ai vu, là.
OK, il a fait un tour d'avion, t'es allé 2-3 heures chez eux, il est revenu.
Quand même.
Ouais, il a passé une journée en avion, il a passé une journée chez eux, puis il a repassé une autre journée en avion, puis c'était
là-dessus. Il avait le goût d'aller chez eux, qu'est-ce que vous voulez. OK, on va s'arrêter là-dessus, puis au retour, on va se parler des Oilers d'Edmonton. Ça n'arrête plus. 15 victoires de suite. Hey, le record, c'est quoi? C'est 17? Ouais. Les Pingouins, 17, en 92-93. Qui a gagné la Coupe en 92-93?
Le CH.
Le Canadien. Ah, ça veut dire que ça peut pas dire qu'à cause tu gagnes plein de matchs durant la saison.
Tu veux que le Canadien va gagner cette année, la
non.
Coupe?
Non, je veux juste dire que ça veut pas dire que tu gagnes plein de matchs en saison, que tu gagnes la Coupe cette année. On s'en parle de retour. Restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse. Crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
On est de retour au balado sortie zone saison 5, épisode 33 avec Alexandre Pratt, Simon, Olivier Larange, Stéphane White. Les gars, les Oilers ne perdent plus. 15 victoires de suite, le record étant de 17 des Penguins de Pittsburgh en 92-93. Et en boutade, je vous ai dit, 92-93, ce sont les Canadiens de Montréal qui ont remporté la Coupe cette année. Comme quoi, ça veut pas dire que tu as une grande séquence de victoires durant une saison, que ça fait en sorte que tu es en mesure de gagner dans les séries de fin de saison. Stéphane, je commence avec toi. Quand tu en gagnes 15, 16, 17 de suite, à ce moment-ci de la saison, est-ce qu'à un moment donné, tu as peur de ne pas piquer au bon moment?
Une bonne question.
Merci.
C'est sûr que tu dis, on fera pas attention, on va faire attention pour ne pas perdre trop parce qu'on ne veut pas piquer. c'est quand tu gagnes, tu veux tout les gagner. Et puis, mais ça peut être le danger. C'est une très, très, très bonne question. Ça peut être le danger. Mais écoute, en ce moment, là, quelle équipe surtout depuis le changement d'entraîneur, Knobloch qui fait tout un job. Et puis, mais écoute, c'est en plus, j'aime l'addition de Corey Perry. Et puis, non, écoute, là, cette équipe-là là, est impressionnante. Enfin, les vétérans, les gros, les go-to guys, comme qu'on appelle en anglais, ont pris le lead de cette équipe-là. Il est à temps. Et puis, l'autre chose qui est importante de mentionner, les gars, on n'en parle pas souvent, mais Stuart Skinner, oui, il a eu un début de saison épouvantable. Mm-hmm. Mais depuis un mois et demi, depuis le changement d'entraîneur, et quelle remontée qu'il a faite au niveau de ses statistiques, au niveau de ses performances, et de 40e à peu près dans la Ligue nationale, au niveau des moyens de but contre, il est rendu au 9e, fait un bon travail. J'aimerais juste qu'on y amène un bon backup, même si Pickard a blanchi les Blackhawks hier. Là, écoute, là, c'est pas un blanchage qui m'impressionne beaucoup là, parce que les Blackhawks sont zéro offensive, mais il faudrait amener de la profondeur au niveau des gardiens de but au cas que Stuart Skinner, un, se blesse, ou deux, on veut pas qu'il joue trop de matchs parce qu'à un moment donné, là, il joue quasiment tout et ça peut devenir dangereux en fin de saison. Mais quelle poussée impressionnante des Oilers.
OK, Simon-Olivier, est-ce que tu penses que ça perdure? Je dis pas qu'ils vont gagner tous les matchs d'ici les séries, là. Mais pense que ce club-là, ce que tu vois présentement, c'est un club qui peut faire du dommage en série de fin de saison?
Je suis pas certain.
Je partage ton doute.
En fait, c'est une équipe qui allait être bonne en saison. Là, évidemment, les 15 victoires de suite marquent l'imaginaire, mais je vois ça comme une aberration, comme les défaites qui s'enlignaient au début de la saison étaient une aberration. C'est-à-dire que c'était pas... On savait que cette équipe-là était bien meilleure que la fiche qui est complètement perdante du début. Et je pense que cette équipe-là est moins bonne que ses 15 victoires de suite présentement. Évidemment, le buzz est incroyable. Ils apparaissent inarrêtables. Ils s'en vont direct en série. Ils seront pas le fun à affronter en série. Je n'aime pas du tout... Stéphane parlait de la profondeur des gardiens de but. J'aime pas leur profondeur à aucune position. C'est les équipes, on en avait parlé à propos de l'Avalanche il y a deux semaines, les équipes top heavy, c'est triste de pas avoir de bonnes traductions, mais des équipes qui sont juste, imaginez un culturiste qui fait juste des bras tous les jours puis jamais des jambes.
Chest bras, chest bras.
Non, mais c'est un ou deux trios absolument dévastateurs et après ça, rien. Je doute que c'est un modèle d'affaires gagnant pour aller en série. Et là, McDavid est tout feu, tout flamme, tout va bien, mais si ça commence à chauffer puis il recommence à faire sa petite baboune, comme on sait qu'on en a déjà parlé ici, je mettrai pas tout mon argent sur les Oilers.
OK, fait que toi, tu dis que les Oilers, c'est comme un gars dans le gym, des gros bras avec des petits mollets?
Oui, on peut dire ça.
Ben voilà, exactement.
On a trouvé la station qui va être sur tous les sites Pyrénées.
Yes.
Alexandre, de ton côté, comment tu vois ça, cette séquence?
Moi, je serais plutôt positif pour les Oilers. Ça va moins bien aller, assurément, dans les prochaines semaines. D'abord, ils n'ont pas de blessés depuis longtemps. T'sais, ça va arriver. Là. Dans le cours d'une saison, il y a toujours des joueurs blessés. Puis quand ils vont avoir un petit peu plus d'adversité, ils vont pouvoir regarder en arrière et se souvenir qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait bien quand on était ensemble au bon janvier. Mais t'sais, est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Non. Il va avoir une perte d'adrénaline naturelle. On l'a vu avec les Kings plutôt cette saison. On l'a vu avec les Bruins à la fin de la saison dernière. Ces choses arrivent souvent quand une équipe en gagne beaucoup. À un moment donné, elle va avoir un vrai creux avant de se relancer. Puis, tu sais, tu parlais tantôt du moment où on est au sommet de l'ascension. Ben, c'est peut-être justement un bon moment pour être au sommet parce qu'ils vont avoir le temps de retomber avant les séries. Tu sais, s'il y avait eu cette séquence-là au mois de mars, j'aurais plutôt été d'accord de dire « OK, ils sont dus là, pour retomber, puis là, tu retombes genre juste avant les séries, c'est pas super bon. » Mais d'être efficace à ce moment-ci de l'année, c'est pas la peine de ça. Puis souvenez-vous, l'année que les Blues ont gagné la Coupe, ils avaient eu des bonnes séquences comme ça, genre au mois de janvier, février. Eux, ils étaient dans le creux au début de la saison, puis ils avaient remonté. Fait que moi, je trouve que c'est plutôt un bon moment pour être bon. T'sais, des clubs qui sont bons en janvier, pour moi, sont souvent bons.
Mais moi, il faut faire attention avec les Oilers, parce que j'ai l'impression que c'est un groupe que tu veux pas avoir dans un creux de vague, parce qu'il y a du bougonnage là-dedans.
Ouais,
Draisaitl, c'est un drôle de personnage. Il est choqué, puis il est choqué non.
Ouais,
McDavid, c'est un drôle de personnage également là-dedans. Quand il devient frustré, c'est pas bon. Tu veux pas les avoir dans cette situation-là.
Mais c'est pour ça qu'il amène un gars comme Corey Perry,
exact. Ouais,
que t'étais contre l'embauche, Jérémy, je te rappelle.
Ouais, contre l'embauche. Je me dis, quand ça marche, pourquoi amener ça de plus? Mais si vous. Écoute, on va le voir dans les séries. Si Corey Perry marque des buts, pas possible.
Non, mais même dans le vestiaire, il peut être. Tu sais, il peut stabiliser une équipe.
C'est sûr.
Mettons, une équipe jeune, inexpérimentée, qui passe à travers. Tu sais, qui en gagne, mettons, 17-18, puis après ça. Oups, là, t'en perds 8 sur 10, quelque chose comme ça. Tu sais, ça peut être une force stabilisatrice dans les investisseurs. On en parlait tantôt. ça prend des joueurs comme ça à Montréal. On n'en a pas. La conséquence, c'est que ça fait 5 séquences de 7 défaites ou plus dans les 5 dernières années.
OK, juste vous dire rapidement, puis on va terminer là-dessus. Tu as fait allusion aux Kings de Los Angeles dans les 10 derniers matchs, 2-5-3. Ouais. J'écoutais Drew Doughty parler en point de presse. Ouais. Il dit, écoute, à un moment donné, c'est nous autres dans le vestiaire, ça n'a juste pas de sens, qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'on va sortir de ce trou-là? Pierre-Luc Dubois ne va nulle part. Stéphane, comment tu vois ça, les Kings?
Et moi, juste des grosses déclarations. Doughty qui dit, bon, on a trop de joueurs qui jouent pour des points. Ça, c'est énorme comme citation. Il vise qui? Campé, Fiola, Trevor Moore, Dubois. Ça, c'est inquiétant. T'as Todd McLellan qui dit sur un site, une partie du blâme me revient. Et puis, au moins, tout le monde est ce qu'on appelle accountable. Talbot qui a des performances très moyennes depuis un mois. T'as David Rittich qui est pour moi un numéro 2 borderline, même s'il va très bien depuis qu'il est là. Mais je crois pas que ça va durer. Là, c'est comme ça tient avec la broche là, dans le filet. Et puis c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais je pense qu'ils ont les leaders Kopitar, Doughty et Dano. Je pense qu'ils ont les leaders pour s'en sortir. Ils ont un coach d'expérience pour s'en sortir. Je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais en ce moment, là, ils sont seulement à 3 points d'être exclus des séries. Qui aurait dit ça, là, un mois? Personne. C'est inquiétant et surprenant même.
Il faut passer aux Rangers l'année dernière. Beaucoup de bons joueurs, beaucoup de profondeur, un bon gardien. Puis là, tu fais comme... La mayonnaise, on dirait qu'elle prend pas. T'sais, ils se sont rendus dans les séries, les Rangers.
Non, mais les Rangers avec Patrick Kane, ça avait juste aucun sens. C'est comme trop. Si tu rajoutes des cartouches par-dessus.
Je pense pas que les Kings vont avoir cette tentation-là à la date limite des échanges.
Faut faire attention. Mais tu sais, écoute, j'imagine que Rob Blake puis t'as Marc Bergevin qui est là, c'est pas des pieds de céleri. Ils comprennent c'est quoi un club de hockey. À un moment donné, de rajouter des cartouches par-dessus.
Bergevin a plutôt la réputation de bouger, justement, à la date limite des échanges.
Ouais, mais bouger pour aller chercher des gars qui peuvent utiliser, qui peuvent. Ajouter
non,
à l'autre.
Je pense qu'ils vont ajouter plus du grit, là. Tu sais, des grit, là. Des
c'est
joueurs,
pas facile, je voulais faire une
la
phrase.
Profondeur, ouais.
La profondeur, voilà. C'est ça. Mais c'est un club qui en a de la profondeur.
Simon-Olivier.
En fait, c'est drôle parce qu'on avait la conversation sur les Oilers sur piquer au bon moment. Je pense que les Kings ont encore du temps devant eux pour retrouver leur air d'aller. Mm-hmm. Et je pense que ça va arriver. Et s'il y a un club qui va être difficile à affronter en série, c'est les Kings. Ils ont quand même, je sais que Pierre-Luc Dubois n'a pas une bonne saison, là. Ils ont une ligne de centre phénoménale.
Ouais.
Ils ont une bonne défense. Moi non plus, Cam Talbot, je suis pas sûr que j'irais confier les clés de la maison, mais les Kings avaient tellement pas d'argent à dépenser pour un gardien de but qu'ils sont allés pour la meilleure solution de rechange. Si on le protège bien en série, je pense que ça va être une équipe très, très, très.
C'était bon, le Talbot.
Talbot était bon en début de saison, mais là, c'est plus difficile récemment. Là. Mais tu sais, tout le monde est dans un passage à vis. Gavrikov a 3 points en 15 matchs. Dubois, on en parlait, 8 points en 16 matchs. Tu sais, ça va pas bien partout, là. C'est pas une question. Je sais que Doughty a été très critique. Je pense que c'est correct. Je pense que ce joueur-là a la légitimité de dire des choses comme ça. Je pense que ça va se replacer. Et surtout, quand ça va se replacer, ça va être une équipe très, très, très achalante. Fait que je suis pas trop inquiet pour les
Kings. Ça prendrait des mea culpa. C'est la solution.
Oh mon Dieu.
Jacques le fait. Voyons si ça marche avec.
Jacques Aélé, point d'interrogation.
Oh! Des sites de rumeurs n'arrêteront pas. Hey, Simon Olivier, encore une fois, avec beaucoup de maturité, nous clôt ce sujet sur les Kings de Los Angeles. Les gars, c'est un grand plaisir encore une fois. Merci beaucoup, Alexandre Pratt. Ça fut un plaisir.
Merci
Simon Olivier. L'Orange dit le sage de notre groupe. Merci beaucoup, Simon Olivier.
Merci à toi.
Stéphane White, toujours un plaisir. Merci, Steph.
Merci les gars, bon break.
Ouais, on a une petite pause, tout le monde, direction Coco Cabana Cuba. Retour lundi le 5 février prochain. Ça sera notre prochain rendez-vous pour Sortie d'Or.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.